Chirurgie de la hanche à la recherche de la prothèse idéale. Article basé sur l'intervention du docteur Alban Pinaroli, PINAROLI, au C3R, Cercle de recherche en rééducation et réadaptation, en octobre dernier à Lyon. Article signé Julie Devilliers, DEVI2L, ERS. Kiné actualité du jeudi 26 mars 2009. L'arthroplastie de hanche s'est considérablement développée ces dernières décennies. L'évolution vers une patientèle plus jeune et exigeante a conduit les laboratoires à étudier de nouveaux types de prothèses, se voulant toujours plus efficaces, et tandis que les innovations se succèdent, leurs auteurs se targuent tour à tour des meilleures performances. Pourtant, certains professionnels de santé se montrent réservés sur ces propositions encore récentes à l'échelle de l'expérimentation, ne bénéficiant pas d'un recul suffisant pour juger de leur fiabilité sur le long terme. L'attente des patients, la diversité des prothèses et des techniques opératoires, leurs risques inhérents placent les chirurgiens face à des choix délicats. Stable, pérenne, mobile et indolore, voilà les quatre objectifs d'une prothèse de hanche. Avec la volonté d'y répondre, le premier prototype d'arthroplastie totale de hanche a été conçu puis testé en 1951 par MacKie, MAC plus loin K2E. Depuis, d'autres modèles ont été mis au point et ont fait leurs preuves dans le temps. Ainsi, l'arthroplastie avec une tête métallique et une cupule en polyéthylène proposée par Charnley est aujourd'hui la plus utilisée. Elle affiche un recul sérieux d'une trentaine d'années et une longévité de 15 à 20 ans pour 85% des patients. Elle permet aux sujets âgés opérés, soit plus de 90% des personnes nécessitant une prothèse de hanche, de les accompagner souvent jusqu'au terme de leur vie. Ce type d'arthroplastie paraît adapté à ces patients désireux de retrouver leur autonomie dans un contexte d'activité décroissante. Pour les sujets plus jeunes, le problème se pose différemment. Ces patients, de plus en plus nombreux, souhaitent reprendre leurs activités suspendues par la douleur ou l'impotence. Ils requièrent donc un implant solide, stable, mais aussi durable. Ces nouveaux clients sur le marché de la prothèse de hanche poussent à la conception de matériaux novateurs. Nombre de chirurgiens, qui pourtant ont à cœur de répondre à cette demande, restent prudents quant à ces innovations et s'interrogent sur leur fiabilité. À l'origine de cette vigilance, une expérimentation sur le terrain encore trop récente et imprécise. Le chirurgien distingue donc ces deux populations de patients lors du choix de son modèle, de son mode opératoire. En fonction du profil de chacun, il opte pour la voie d'abord, l'implant et le couple de frottement, selon lui, les plus adaptés. Choix de la voie d'abord. Simple variation ou technique à part entière, il existe un grand nombre de voies d'abord pour l'arthroplastie de hanche. Elles se définissent entre autres en fonction du profil du patient, de l'expérience du chirurgien et du matériel à disposition. Chacun comporte ses avantages et inconvénients. Il est essentiel que le masseur-kinésithérapeute prenne connaissance de la voie d'abord pratiquée afin d'orienter sa rééducation, en particulier selon les risques de luxation. Dans la voie antérieure, l'incision descend de l'épine iliaque antérieure en direction de la tête du péroné sur environ 12 cm. Cette voie permet un retour fonctionnel rapide et comporte peu de risques de luxation. Sa réalisation nécessite par contre un geste opératoire délicat, exigeant l'expérience du chirurgien et une table d'opération particulière. Bien réalisée, cette voie offre les suites opératoires les meilleures. Ensuite, la voie d'abord transtrochantérienne requiert une section de l'os trochantérien par incision latérale pour dégager l'articulation. Elle permet de reprendre les muscles fessiers, de retendre les muscles fessiers et ainsi de diminuer les risques de luxation. En fin d'opération, le chirurgien cercle le grand trochanter avec des fils métalliques. Cette voie expose à des risques de pseudarthrose ou de défection du matériel d'ostéosynthèse. La voie postérieure de Moore est, quant à elle, la plus utilisée. Techniquement plus simple à pratiquer, elle suit le même protocole que la voie précédente, à la différence près que la section porte sur les muscles pelvitrochantériens. Cette voie augmente cependant le risque de luxation post-opératoire en rotation interne, adduction et hyperflexion de hanche. La voie antéro-externe de Watson-Jones préserve le capital osseux et musculaire. Elle permet d'accéder au site opératoire par le chemin le plus court en désinsérant la partie antérieure du moyen fessier. Pour les voies antérieures, le risque de luxation est favorisé par une position d'abduction, rotation externe et extension de hanche. Pour chacune de ces voies d'abord, dont la liste ici n'est pas exhaustive, il existe une déclinaison mini-invasive. Celle-ci permet de limiter le saignement, les douleurs post-opératoires, épargne au maximum les parties molles et s'avère plus esthétique. Toutefois, cette technique requiert un matériel adapté et une maîtrise parfaite du geste opératoire pour un bon positionnement des implants. Implants, un choix au cas par cas. Les implants, eux aussi, sont nombreux. Les prothèses peuvent être cimentées ou non cimentées. La première possibilité permet de tenir d'emblée grâce à la fixation par le ciment de la prothèse fémorale et cotyloïdienne. La stabilité immédiate autorise aussitôt la prise d'appui et la marche sans douleur. Toutefois, à long terme, le ciment perd de ses qualités mécaniques, des décellements sont possibles, nécessitant alors une reprise de la prothèse. Les montages sans ciment suppriment ces risques, mais retardent la reprise d'autonomie faute de stabilité immédiate. Dans un premier temps, le remplissage optimum de la cavité osseuse par l'implant assure une fixation relative de la prothèse. Puis l'os et le revêtement du matériel se mêlent l'un à l'autre dans un processus d'ostéo-intégration. Une ostéogenèse imparfaite peut être source de micromobilité et causer ainsi des douleurs à l'appui et à la mobilisation. Le chirurgien détermine l'implant adapté au cas par cas dans un objectif de restitution de l'anatomie de la hanche. Des laboratoires ont récemment mis au point des types de prothèses dites modulables. Par exemple, une même prothèse peut proposer plusieurs conformations, différentes longueurs ou angulations de col. L'opérateur choisit alors, pendant l'intervention, l'option la plus adaptée à la morphologie de son patient. Retour de resurfaçage de hanche. Le resurfaçage de hanche, technique abandonnée dans les années 70, revient dans le paysage chirurgical de la hanche après quelques adaptations. Il permet d'éviter la pose d'une prothèse totale de hanche avec ablation de la tête et du col fémoraux et impaction en force d'une tige prothétique de 15 cm dans le fémur et de n'intervenir que sur la partie abîmée. Ici, le praticien enlève le cartilage de la tête fémorale et pose une cupule qui recouvre la tête du fémur comme un chapeau. Cette dernière est maintenue à l'aide d'une vis. La reprise chirurgicale d'une telle installation est simple et nécessite juste d'ôter la cupule. Les échecs de cette technique, vraisemblablement imputables à l'époque à un mauvais choix de couple de frottement, semblent avoir trouvé une issue dans le choix de matériaux en métal plus stables. Le geste chirurgical est délicat et sa précision capitale. Les risques de cette technique sont les fractures du col du fémur. En effet, l'opération peut entraîner des fragilisations osseuses, en particulier chez les sujets ostéoporotiques. Le resurfaçage est donc évité chez les femmes de plus de 50 ans, les hommes de plus de 60 et les cas d'ostéonécrose aseptique. Un autre risque, relaté dans le chapitre suivant, concerne l'emploi du métal chez les femmes en âge de procréer, et les insuffisants rénaux. Le défi des couples de frottement. Le couple de frottement d'une prothèse de hanche se compose d'une part de la cupule, de l'autre de la tête fémorale prothétique. En proie aux fortes contraintes du bassin, ces deux composants frottent l'un contre l'autre. Ainsi, la composition de ces deux parties s'avère primordiale pour la réussite d'une prothèse de hanche saine et pérenne. Ce choix est conditionné par le profil du patient, son âge, ses activités, ses pathologies associées, son désir éventuel de procréation. Le challenge aujourd'hui réside dans la mise en place de têtes prothétiques de plus en plus grosses pour améliorer la stabilité et la mobilité. Le couple métal-polyéthylène bénéficie d'un recul de 30 ans. Une tête métallique s'emboîte dans un insert en PE, métal-polyéthylène. Cependant, le PE nécessite une épaisseur importante pour ne pas s'user trop vite, réduisant d'autant le diamètre de la tête qui s'y insère. Ainsi, les têtes de ce couple mesurent généralement 22 mm de diamètre. Un PE hautement réticulé, plus dur, a permis de hausser cette mesure à 28 et 32 mm. Toutefois, à l'usure, ce montage détache des débris de plastique à l'origine d'une réaction immunitaire d'ostéolyse autour de la prothèse et peut entraîner un décellement. Cependant, pour une personne âgée qui sollicite peu sa prothèse, il affiche un taux de survie de 85%. Plus tard, le couple céramique PE a été expérimentée. La tête en céramique a connu plusieurs générations. Après la céramique de zircone, véritable échec, la céramique d'alumine semble mieux se comporter. Néanmoins, ce montage ne modifie pas le diamètre de la tête. Un couple céramique-céramique nécessite une épaisseur plus fine de la partie cotyloïdienne, permettant d'augmenter le diamètre de la tête. Le recul d'une quinzaine d'années semble aujourd'hui sérieux. Ces deux composants durs confèrent un taux d'usure faible, voire quasi nul. Par contre, cette dureté le rend aussi cassable sur le gros traumatisme. Un couple céramique-céramique constitué de delta alumine permet la pose de tête atteignant jusqu'à 36 mm de diamètre. Cet alliage moins cassable que l'alumine génère toutefois des interrogations concernant sa composition, 10% de zircone. Le couple métal-métal permet des têtes très grosses, il semble idéal à la stabilité et à la mobilité, de plus il ne s'use pratiquement pas. Les nouveaux alliages métalliques ont fait des progrès, mais des craintes portent sur le relargage d'ions métalliques, surtout la première année. Ces ions pourraient endommager les reins et provoquer des translocations chromosomiques qu'une patiente serait susceptible de transmettre à son enfant à naître. Ces inconnus incitent donc à une grande prudence. Enfin, le couple métal-PE, double mobilité, permet une mobilité entre l'insert et la cupule, ainsi qu'entre l'insert et la tête. Ce dispositif permet d'obtenir aussi de bons résultats, d'aussi bons résultats de mobilité et de stabilité qu'avec de grosses têtes prothétiques. Néanmoins, l'usure de l'insert peut entraîner une luxation intra-prothétique. Il semble donc préférable de réserver cette technique à des sujets âgés plutôt qu'à des personnes jeunes et actives. Complications. L'arthroplastie de hanche est aujourd'hui une intervention fréquente dont les résultats sont plutôt satisfaisants. Des complications de causes diverses sont toutefois répertoriées. Le geste opératoire du chirurgien en premier lieu joue un rôle capital dans les suites de l'intervention. Par exemple, le changement de voie d'abord par un professionnel pour un professionnel coutumier d'une technique en particulier constitue un facteur de risque supplémentaire. Une malposition des implants peut entraîner une luxation de hanche, générer une inégalité de longueur des membres inférieurs, un conflit entre les différentes parties de la prothèse, source d'instabilité ou encore un débord antérieur de la cupule. Mal positionnés, certains implants peuvent ainsi engendrer une métallose par détachement d'éclats de métal ou modifier l'écartement entre le fémur et sa tête, offset, et entraîner une instabilité. Le choix du couple de frottement est aussi primordial et doit tenir compte des spécificités du patient. Confère chapitre précédent. Enfin, les complications peuvent aussi être d'ordre traumatique, luxation, fracture périprothétique ou prothétique ou septique. Ainsi, les chirurgiens sont confrontés à de nouvelles demandes pour lesquelles ils ne disposent pas de réponse idéale. Nombreux sont ceux qui, par choix, continuent de pratiquer les anciennes méthodes pour lesquelles la chirurgie dispose aujourd'hui d'un recul conséquent et de bons résultats, surtout concernant la population âgée. Il n'existe donc pas à ce jour de prothèse de hanche idéale, mais un ensemble de choix d'outils et de techniques comportant chacun ses avantages et inconvénients selon le profil du patient. À signaler que le docteur Alban Pinaroli est chirurgien orthopédiste au centre Livé Hôpital de la Croix-Rousse, 69, récemment en poste à la clinique Clairet, CLERET, dans le 73, en association avec les docteurs Buisson et Millon.